Propriété privée et besoin. Nous avons vu quelle signification prend sous le communisme la richesse des besoins humains et, par suite, la création d'un nouveau mode de production et d'un nouvel objet de la production. C'est une manifestation nouvelle de la force essentielle de l'homme et un enrichissement nouveau de l'essence humaine. Sous le régime de la propriété privée, c'est l'inverse. Chacun s'applique à susciter chez autrui un besoin nouveau pour le contraindre à un nouveau sacrifice, pour le placer dans une nouvelle dépendance et le pousser à un nouveau mode de jouissance, donc de ruine économique. Chacun cherche à créer une force essentielle étrangère dominant les autres hommes pour en tirer la satisfaction de son propre besoin égoïste. Avec la masse des objets, augmente donc l'empire des êtres étrangers auxquels l'homme est soumis. Tout produit nouveau renforce encore la tromperie réciproque et le pillage mutuel. L'homme devient de plus en plus pauvre en tant qu'homme. Il a de plus en plus besoin d'argent pour s'emparer de l'être hostile. Et la puissance de son argent diminue en raison inverse de l'accroissement du volume de la production. Autrement dit, son indigence augmente à mesure que croît la puissance de l'argent. Le besoin d'argent est donc le vrai et unique besoin suscité par l'économie politique. La quantité devient de plus en plus l'unique et puissante propriété de l'argent. De même qu'il réduit tout être à une abstraction, de même il se réduit lui-même, dans son propre mouvement, à un être quantitatif. La démesure, l'excès, deviennent sa véritable mesure. Sur le plan subjectif même, cela se manifeste d'une part en ceci que l'extension des produits et des besoins devient l'esclave inventif et rusé d'appétits inhumains, raffinés, contraires à la nature et imaginaires. La propriété privée ne sait pas transformer le besoin élémentaire en besoin humain. Son idéalisme, c'est la fantaisie, l'arbitraire et le caprice. Nul eunuque n'a flatté avec plus de bassesse son maître et n'a cherché à exciter ses facultés émoussées de jouissance pour capter une faveur avec des moyens plus infâmes que ceux qu'emploie l'eunuque industriel, le fabricant, pour subtiliser quelques pièces d'or de la poche de son voisin très chrétiennement aimé. Tout produit est un appât avec lequel on tâche d'attirer à soi l'être d'autrui, son argent. Tout besoin réel ou virtuel est une faiblesse qui attirera la mouche dans la glu. C'est l'exploitation universelle de l'essence sociale de l'homme. De même, chacune de ses imperfections est un lien avec le ciel, côté par lequel son cœur est accessible au prêtre. Tout besoin est une occasion pour s'approcher du voisin avec l'air le plus aimable et lui dire « Cher ami, je te donnerai ce qui t'est nécessaire, mais tu connais la condition sine qua non. Tu sais de quelle encre tu dois signer le pacte qui te lie à moi. Je t'étrille en te procurant une jouissance. » Il se plie aux caprices les plus infâmes de l'homme, joue le rôle d'entremetteur entre lui et ses besoins, excite en lui des appétits maladifs, guette la moindre de ses faiblesses pour lui demander ensuite le salaire de ses bons offices. Cette aliénation produit, d'un côté, le raffinement des besoins et des moyens de les satisfaire. De l'autre, le retour à une sauvagerie bestiale, la simplicité totale, grossière et abstraite du besoin. Ou plutôt, elle ne fait que se reproduire elle-même en tant que contradiction. Même le besoin de grand air cesse d'être un besoin pour l'ouvrier. L'homme retourne à sa caverne, mais elle est maintenant empestée par le souffle pestilentiel et méphétique de la civilisation, si bien qu'il ne l'habite plus que d'une façon précaire, comme une puissance étrangère qui peut chaque jour se dérober à lui, dont il peut chaque jour être expulsé s'il ne paie pas. La demeure lumineuse que, dans Esquille, Prométhée désigne comme l'un des grands cadeaux grâce auquel il a transformé les sauvages en hommes, cesse d'exister pour l'ouvrier. La lumière, l'air, etc., la propreté animale la plus élémentaire, cesse d'être un besoin pour l'homme. La crasse, cette débauche, cette putréfaction de l'homme, ce cloaque de la civilisation, l'incurie totale et contraire à la nature putride, deviennent l'élément où il vit. Aucun de ces sens n'existe plus, non seulement sous son aspect humain, mais aussi sous son aspect inhumain, c'est-à-dire pire qu'animal. On voit réapparaître les modes et les instruments les plus primitifs du travail humain. La meule des esclaves romains est devenue le mode de production, le mode d'existence pour beaucoup d'ouvriers anglais. Non seulement les besoins humains, mais aussi les besoins animaux ont disparu. L'Irlandais ne connaît plus le besoin de manger, et, qui plus est, seulement de manger des pommes de terre, voire des pommes de terre à cochon, celles de la pire espèce. Mais l'Angleterre et la France possèdent déjà dans chaque village industriel une petite Irlande. Le sauvage, l'animal, ressentent au moins le besoin de la chasse, du mouvement, etc., de la société. Mais la simplification du travail par la machine est utilisée pour transformer les enfants, c'est-à-dire des hommes en voie de formation, encore en développement, en ouvriers, et les ouvriers en enfants laissés à l'abandon. La machine profite de la faiblesse de l'homme pour réduire l'homme faible en machine. De quelle manière l'augmentation des besoins et des moyens de les satisfaire engendre-t-elle l'absence de besoins et de moyens? Voici la démonstration de l'économiste. Premièrement, ayant réduit les besoins de l'ouvrier à l'entretien le plus élémentaire, le plus misérable de la vie physique, ayant réduit l'activité de l'ouvrier au mouvement mécanique le plus abstrait, il proclame que l'homme n'a pas d'autres besoins et n'aspire à aucune activité ou jouissance. Même cette vie-là, il la proclame vie et existence humaine. Deuxièmement, d'après ses calculs, la vie la plus indigente possible est la norme universelle valable pour la masse des hommes. Il fait donc de l'ouvrier un être dépourvu de sens et de besoins, comme il fait de son activité une pure abstraction de toute activité. Le moindre luxe chez l'ouvrier lui paraît condamnable, et tout ce qui dépasse le besoin le plus abstrait, fût-ce une jouissance passive ou une quelconque manifestation d'activité, lui semble un luxe. L'économie politique, science de la richesse, est donc en même temps science du renoncement, des privations, de l'épargne. Et elle réussit réellement à épargner à l'homme même le besoin d'air pur ou de mouvement physique. Cette science de la merveilleuse industrie est en même temps la science de l'ascétisme, et son véritable idéal est l'avare ascétique, mais usurier, et l'esclave ascétique, mais producteur. Son idéal moral est l'ouvrier qui porte à la caisse d'épargne une partie de son salaire. Dans l'intérêt de cette lubie, elle a même trouvé un art servile, le théâtre, qu'il a présenté de manière sentimentale. Malgré ses airs laïques et voluptueux, l'économie est donc une science vraiment morale, la plus morale des sciences. Sa thèse principale, c'est l'abnégation, le renoncement à la vie et à tous les besoins humains. Moins tu manges, bois, achètes de livres, moins tu vas au théâtre, au bal, au cabaret, moins tu penses, aimes, réfléchis, moins tu chantes, moins tu peins, moins tu fais de l'escrime, etc. Plus tu épargnes, plus tu augmentes ton trésor, que ne mangeront ni les mythes, ni la poussière, ton capital. Moins tu es, moins tu manifestes ta vie plus tu possèdes. Plus ta vie aliénée grandit, plus tu accumules des éléments de ton être aliéné. Tout ce que l'économiste t'enlève de vie et d'humanité, il le remplace par de l'argent et de la richesse. Et tout ce que tu ne peux pas faire, ton argent le peut. Il peut manger, boire, aller au bal, au théâtre. Il connaît l'art, l'érudition, les curiosités historiques, le pouvoir politique. Il peut voyager. Il peut attribuer tout cela. Il peut acheter tout cela. Il est la vraie capacité. Mais lui qui est tout cela, il n'a d'autre possibilité que de se créer lui-même, de s'acheter lui-même, car tout le reste est son esclave. Si je possède le maître, je possède aussi son esclave, et je n'ai pas besoin de ce dernier. Toutes les passions et toute activité doivent donc sombrer dans la soif de richesse. L'ouvrier doit avoir juste assez pour vouloir vivre et ne doit vouloir vivre que pour posséder. Certes, une controverse surgit maintenant en économie politique. Les uns recommandent le luxe et honnissent l'épargne. Les autres recommandent l'épargne et honnissent le luxe. Mais les premiers avouent qu'ils veulent le luxe pour produire du travail, c'est-à-dire l'épargne absolue, entre parenthèses. Les autres confessent qu'ils préconisent l'épargne pour produire de la richesse, c'est-à-dire du luxe. Les premiers ont l'illusion romantique que ce n'est pas la seule soif du gain qui doit déterminer la consommation des riches, et ils contredisent leur propre loi quand ils considèrent directement la prodigalité comme un moyen d'enrichissement. Et les autres leur démontrent longuement et avec gravité que, par la prodigalité, l'avoir diminue au lieu d'augmenter. Les seconds ont l'hypocrisie de ne pas avouer que la production est précisément déterminée par le caprice et l'intuition. Ils oublient les « besoins raffinés ». Ils oublient que sans consommation, il n'y aurait pas de production. Ils oublient que, par la concurrence, la production doit devenir de plus en plus variée et luxueuse. Ils oublient qu'à leurs yeux, c'est l'usage qui détermine la valeur des choses et que c'est la mode qui détermine l'usage. Ils souhaitent que la production se limite à « l'utile », entre guillemets. Mais ils oublient que la production de trop d'objets utiles produit un excès de population inutile. Les uns et les autres oublient que le gaspillage et l'épargne, le luxe et le dénuement, la richesse et la pauvreté s'équivalent. Si tu veux te conformer aux enseignements de l'économie, si tu ne veux pas périr à cause de tes illusions, tu ne dois pas seulement être économe de tes désirs immédiats, par exemple l'envie de manger, etc. Tu dois aussi t'épargner de t'intéresser aux questions générales, d'avoir pitié, confiance, etc. Tout ce qui t'appartient, tu dois le rendre vénal, c'est-à-dire utile. Si je demande à l'économiste « Est-ce que j'obéis aux lois économiques quand je tire profit de l'abandon, de la vente de mon corps à la volupté d'autrui ?» Ouvrez la parenthèse. En France, les ouvriers d'usine appellent la prostitution de leurs femmes et de leurs filles l'heure de travail supplémentaire, ce qui est littéralement exact. Fermez la parenthèse. Ou bien est-ce que je n'agis pas conformément à l'économie lorsque je vends mon ami au Marocain? Ouvrez la parenthèse. Et la vente directe des hommes sous la forme du commerce des recrues, etc., se pratique dans tous les pays civilisés. Fermez la parenthèse. L'économiste me répond. Tu n'agis pas à l'encontre de mes lois, mais prends garde à ce que disent mes cousines, la morale et la religion. Ma morale et ma religion économique n'ont rien à t'objecter. Mais qui dois-je croire ? L'économie politique ou la morale ? La morale de l'économie politique, c'est le gain, le travail et l'épargne, la sobriété. Mais l'économie politique me promet de satisfaire mes besoins. L'économie politique de la morale, c'est la bonne conscience, la vertu, etc. Mais comment puis-je être vertueux si je ne suis rien ? Comment puis-je avoir une bonne conscience si je ne sais rien ? Tout ceci est fondé dans l'essence de l'aliénation. Chaque sphère me suggère un critère différent et opposé aux autres. Le critère de la morale étant autre que celui de l'économie, parce que chacune est une aliénation particulière de l'homme, et que chacune représente une sphère particulière de l'activité aliénée. Chaque sphère d'aliénation étant elle-même étrangère à l'autre. C'est ainsi que Michel Chevalier reproche à Ricardo de faire abstraction de la morale. Mais Ricardo laisse l'économie parler son propre langage. Si celui-ci n'est pas moral, Ricardo n'y peut rien. Michel Chevalier fait abstraction de l'économie dans la mesure où il moralise. Mais il fait nécessairement et réellement abstraction de la morale dans la mesure où il fait de l'économie politique. La relation de l'économie à la morale, si elle n'est pas arbitraire, contingente, et donc sans fondement et sans caractère scientifique, si on n'en fait pas état seulement pour paraître, mais qu'on la considère comme essentielle, ne peut être que la relation des lois économiques à la morale. Si tel n'est pas le cas, ou si c'est le contraire, en quoi Ricardo est-il responsable ? D'ailleurs, l'opposition entre l'économie et la morale n'est qu'une apparence, et s'il y a une opposition, ce n'en est pas une. L'économie politique ne fait qu'exprimer à sa manière les lois morales. L'extinction de besoins comme principe de l'économie se montre de la manière la plus éclatante dans sa théorie de la population. Il y a trop d'hommes. Même l'existence des hommes est un pur luxe. Et si l'ouvrier est « moral », entre guillemets, il sera économe dans la procréation. La production de l'homme apparaît comme une calamité publique. Ouvrez la parenthèse. Mill propose que l'on félicite publiquement ceux qui se montrent abstinents au point de vue sexuel, et que l'on blâme publiquement ceux qui pêchent contre cette stérilité du mariage. N'est-ce pas moral ? N'est-ce pas la doctrine de l'ascétisme ? Fermez la parenthèse. Le sens que la production a pour les riches apparaît ouvertement dans le sens qu'elle a pour les pauvres. Sa signification pour ceux d'en haut s'exprime toujours d'une manière subtile, déguisée, ambiguë. C'est l'apparence. Pour ceux d'en bas, elle s'exprime d'une manière grossière, directe, sincère. C'est l'essence. Les besoins élémentaires de l'ouvrier sont une source bien plus grande de profit que les besoins raffinés du riche. Les sous-sols de Londres rapportent à leurs propriétaires bien plus que les palais. Ils constituent donc, pour ces derniers, une richesse plus grande ou, pour employer le langage des économistes, une plus grande richesse sociale. Et tout comme l'industrie spécule sur le raffinement des besoins, elle spécule sur leur grossièreté, mais sur leur grossièreté provoquée artificiellement. La véritable joie que procurent ces besoins grossiers réside donc dans l'étourdissement. Satisfaction illusoire des besoins, l'étourdissement représente la civilisation à l'intérieur de la barbarie sauvage des besoins. C'est pourquoi les estaminets anglais constitue une illustration symbolique de la propriété privée. Leur luxe montre le véritable rapport entre l'homme et le luxe, et la richesse de l'industrie. Ainsi sont-ils, à juste titre, les seules réjouissances dominicales du peuple qui soient traitées avec quelque douceur par la police anglaise. Nous avons donc vu comment l'économiste pose de façon diverse l'unité du capital et du travail. Premier point, le capital et du travail accumulé. Deuxième point, la détermination du capital à l'intérieur de la production, soit la reproduction du capital avec profit, soit le capital comme matière première, matière du travail entre parenthèses, soit comme instrument travaillant lui-même. Ouvrez la parenthèse, la machine et le capital posé immédiatement comme identique avec le travail. Fermez la parenthèse. Soit comme instrument travaillant lui-même et le travail productif. Troisième point, l'ouvrier est un capital. Quatrième point, le salaire fait partie des frais du capital. Cinquième point, en ce qui concerne l'ouvrier, le travail est la reproduction de son capital vital. Sixième point, en ce qui concerne le capitaliste, il est un facteur d'activité de son capital. Enfin, septième point, l'économie suppose l'unité primitive de l'un et de l'autre, comme l'unité du capitaliste et de l'ouvrier. C'est l'état primitif paradisiaque. Comme ces deux aspects qu'incarnent deux personnes se sautent à la gorge l'un de l'autre, cela est pour l'économiste un événement contingent et par suite qui ne peut s'expliquer que de l'extérieur. Les nations qui sont encore aveuglées par l'éclat sensible des métaux précieux et qui sont donc encore des fétichistes de l'argent en métal ne sont pas encore les nations d'argent achevées. Opposition entre la France et l'Angleterre. À propos du fétichisme, par exemple, on voit combien la solution des énigmes théoriques est une tâche de la praxis et s'effectue par son entremise, et combien la praxis vraie est la condition d'une théorie réelle et positive. La conscience sensible du fétichiste est différente de celle du grec, parce que son existence sensible est aussi différente. L'hostilité abstraite entre sensibilité et esprit est nécessaire tant que le sens de l'homme pour la nature, le sens humain de la nature, donc aussi le sens naturel de l'homme, n'est pas encore produit par le travail propre de l'homme. L'égalité n'est rien d'autre que le moi égale moi allemand, traduit en français, c'est-à-dire le moi sous la forme politique. L'égalité comme fondement du communisme en est la justification politique. La même chose se produit lorsque l'allemand fonde son communisme en affirmant sa conception de l'homme comme conscience de soi universelle. Il va de soi que l'abolition de l'aliénation part toujours de la forme de l'aliénation qui est la puissance dominante. En Allemagne, la conscience de soi. En France, l'égalité, du fait même de la politique. En Angleterre, le besoin réel matériel et pratique qui ne se mesure qu'à l'aune de lui-même. C'est de là qu'il faut partir pour critiquer et apprécier Proudhon. Le communisme en tant que négation de la négation est une appropriation de l'essence humaine médiatisée par la négation de la propriété privée. C'est pourquoi nous le considérons comme une positivité, non encore vraie puisqu'elle ne part pas d'elle-même, mais de la propriété privée. N'utilisons pas l'ancienne manière allemande, celle de la phénoménologie de l'esprit. Et ne croyons pas que l'idée de la suppression de la propriété privée fait de celle-ci un moment aboli parce que dépassé. On pourrait se contenter de l'avoir supprimée dans la conscience. Or, l'aliénation de l'essence ne peut être supprimée que par une action réelle. L'idée de la propriété privée peut être supprimée par la pensée. Mais la propriété privée demeure, et avec elle demeure l'aliénation réelle de la vie humaine. L'aliénation d'autant plus grande que l'on en est plus conscient. La suppression de l'aliénation réelle ne peut être accomplie que par le communisme mis en pratique. Pour supprimer l'idée de la propriété privée, l'idée même de communisme suffit entièrement. Pour abolir la propriété privée réelle, il faut une action communiste réelle. L'histoire la fournira. Nous savons déjà en pensée que ce mouvement porte en lui-même son propre dépassement. Mais dans la réalité, il devra passer par un processus très dur et très long. Néanmoins, nous devons considérer comme un réel progrès le fait que, de prime abord, nous ayons acquis une conscience non seulement du but du mouvement historique, mais aussi de sa limitation et de ce qui le dépasse. Lorsque les ouvriers communistes se réunissent, c'est d'abord en vue de se saisir de la doctrine, de la propagande, etc. Mais en même temps, ils acquièrent par là un besoin nouveau, le besoin de la société. Et ce qui semble être le moyen est devenu leur but. On peut observer les plus brillants résultats de ce mouvement pratique lorsqu'on voit réunis des ouvriers socialistes français. Fumer, boire, manger, etc. ne sont plus là comme des moyens de se réunir, comme des moyens de s'unir. La société leur suffit. Les réunions et les divertissements ne visent qu'à créer cette société. Chez eux, la fraternité humaine n'est pas une phrase, mais une vérité. Et la noblesse de l'humanité brille sur ces figures endurcies par le travail. Si l'économie politique affirme que la demande et l'offre se couvrent toujours l'une l'autre, elle oublie aussitôt que, d'après ses propres affirmations, l'offre en homme, théorie de la population, entre parenthèses, dépasse toujours la demande, que le résultat essentiel de toute la production, l'existence de l'homme, fait donc apparaître de la façon la plus nette la disproportion entre la demande et l'offre. À quel point l'argent, qui, à l'origine, n'est qu'un moyen, est devenu la vraie puissance et le but unique. À quel point, en général, le moyen qui fait de moi un être, qui fait mien l'être objectif, étranger, devient un but en soi. On peut le voir à la façon dont la propriété foncière, là où la terre est la source de vie, de même que le cheval et l'épée, là où ils sont les vrais moyens de subsistance, sont aussi reconnus comme les vraies puissances politiques dominantes de la vie. Au Moyen-Âge, une classe est émancipée dès qu'elle a le droit de porter l'épée. Dans les populations nomades, c'est le cheval qui fait de moi un homme libre, un membre de la communauté. Nous avons dit précédemment que l'homme retourne aux cavernes, etc. mais qu'il les retrouve étrangères à lui, hostiles. Le sauvage dans sa caverne, cet élément de la nature qui s'offre immédiatement à lui pour qu'il en jouisse et qu'il y trouve abri, ne s'y sent nullement étranger. Il s'y sent aussi à l'aise que le poisson dans l'eau. Mais le sous-sol où loge le pauvre est quelque chose d'hostile. C'est une maison hantée par, ouvrez les guillemets, une puissance étrangère qui ne se donne à lui que s'il lui donne sa sueur et son sang, fermez les guillemets, qu'il ne peut considérer comme son propre foyer, où il pourrait enfin dire « Ici, je suis chez moi ». Il se trouve plutôt dans la maison d'un autre, dans la maison d'un étranger qui, chaque jour, le guette pour le jeter à la porte s'il ne paie pas le loyer. De même, au point de vue de la qualité, il sait que son logement est le contraire du logement vraiment humain qui est, lui, situé dans l'au-delà, au ciel de la richesse. L'aliénation transparaît tout autant à travers le fait que mes moyens de subsistance appartiennent à un autre, que ce qui est mon désir est la possession inaccessible d'un autre, qu'à travers le fait que toute chose est elle-même autre qu'elle-même, que mon activité est autre chose, qu'enfin, et ceci est vrai aussi pour le capitalisme, c'est somme toute la puissance inhumaine qui règne. Définition de la richesse inactive, dissipatrice, laissée seulement à la jouissance. D'une part, celui qui en jouit se conduit, certes, comme un individu seulement éphémère, abandonné à la frénésie, considérant également le travail d'esclave d'autrui, la sueur et le sang des hommes, comme la proie de son désir. C'est pourquoi il ne voit dans l'homme, et donc dans lui-même, qu'un être sacrifié, réduit au néant. Son mépris des hommes se manifeste sous la forme d'une frénésie, du gaspillage de ce qui pourrait faire vivre 100 hommes, ou bien sous la forme de l'illusion infâme que sa prodigalité effrénée et sa consommation démesurée et improductive est la condition dont dépend le travail et la subsistance des autres. La réalisation des forces essentielles de l'homme, il ne la connaît que comme la réalisation de son néant, de son caprice, de ses lubies arbitraires et bizarres. Mais, d'autre part, cette richesse-là perçoit la richesse comme un simple moyen, comme une chose qui ne mérite que d'être détruite. Elle est donc à la fois maître et esclave, à la fois généreuse et abjecte, capricieuse, infantuée, vaniteuse et raffinée, cultivée, intelligente. Cette richesse n'a pas encore fait l'expérience de la richesse comme d'une puissance totalement étrangère qui la domine. Elle voit plutôt en elle sa propre puissance. Ce n'est pas la richesse, mais la jouissance qui est la fin dernière. À cette conception illusoire, brillante et comme aveuglée par l'apparence sensible, l'essence de la richesse, s'oppose l'industriel travailleur, sobre, prosaïque, qui connaît l'économie et a des idées éclairées sur l'essence de la richesse. Il procure à l'appétit du gaspilleur un champ de jouissance plus vaste, et il le courtise avec ses produits qu'il offre et qui flattent bassement ses appétits. Mais en même temps, il connaît la manière, d'ailleurs la seule utile, de s'approprier la puissance qui cesse désormais d'appartenir au jouisseur gaspilleur. La richesse industrielle apparaît d'abord comme le résultat de la richesse dissipatrice, fantaisiste. Mais au cours de son évolution, elle finit par l'écarter activement, en vertu d'un mouvement qui lui est propre. La baisse du taux de l'intérêt est, en effet, une conséquence et un résultat nécessaire du mouvement industriel. Les moyens du rentier dépensier diminuent chaque jour, exactement en raison inverse de l'augmentation des moyens de jouissance et de leur piège. Il doit donc ou bien dépenser lui-même son capital, donc se ruiner, ou bien se transformer lui-même en capitaliste industriel. D'autre part, le mouvement industriel favorise la hausse continue de la rente foncière. Mais, nous l'avons vu, il vient nécessairement un moment où la propriété foncière doit tomber, comme toute autre propriété, dans la catégorie du capital qui se reproduit avec profit. Et c'est ce même mouvement industriel qui doit aboutir à ce résultat. Donc, le propriétaire foncier dissipateur doit, lui aussi, ou bien dépenser son capital et se condamner à la ruine, ou bien devenir lui-même le fermier de sa propre terre, un industriel pratiquant l'agriculture. La diminution de l'intérêt de l'argent, que Proudhon considère comme la suppression du capital et comme la tendance à la socialisation du capital, est donc plutôt un symptôme direct de la victoire complète du capital actif sur la richesse oisive. Elle signifie la transformation de toute propriété privée en capital industriel. La victoire complète de la propriété privée sur toutes ses qualités apparemment humaines et l'assujettissement total du propriétaire privé à l'essence de la propriété privée, le travail. Certes, le capitaliste industriel est lui aussi un jouisseur. Il ne retourne nullement à une frugalité contre nature. Mais sa jouissance n'est qu'une chose secondaire, un délassement subordonné à la production. En même temps, il s'agit d'une jouissance calculée, donc conforme à l'économie politique. L'ayant ajouté aux frais du capital, il fait de sorte que le coût de ses dépenses soit compensé avec profit par la reproduction du capital. La jouissance est donc subordonnée au capital et, contrairement à ce qui se faisait auparavant, le jouisseur est désormais subordonné à celui qui accumule du capital. La diminution de l'intérêt n'est donc un symptôme de l'abolition du capital que dans la mesure où elle est un symptôme de sa domination en voie d'achèvement, donc de l'aliénation qui, en devenant totale, se hâte vers sa suppression. C'est en somme l'unique manière par laquelle l'ordre existant confirme son contraire. La querelle des économistes à propos du luxe et de l'épargne n'est par conséquent que la querelle entre l'économie politique qui a acquis une claire conscience de l'essence de la richesse et celle qui est encore entachée de souvenirs romantiques, anti-industriels. Mais aucune des deux parties ne sait ramener l'objet de la querelle à son expression simple. En conséquence, elles n'arrivent pas à venir à bout l'une de l'autre. La rente foncière fut en outre renversée en tant que rente foncière, car à l'opposé de l'argument des physiocrates, qui faisait du propriétaire foncier le seul vrai producteur, l'économie politique moderne a démontré au contraire qu'il était en tant que propriétaire foncier le seul rentier totalement improductif. L'agriculture serait l'affaire du capitaliste qui donnerait cet emploi à son capital s'il avait à en attendre le profit habituel. Le principe posé par les physiocrates, que la propriété foncière, étant la seule propriété productrice, devrait seule payer l'impôt d'État, devrait aussi seule décider de cet impôt et prendre part à la gestion de l'État. Donc le principe posé par les physiocrates se change donc en définition inverse. L'impôt sur la rente foncière est le seul impôt sur un revenu improductif. Et, par suite, le seul qui ne soit pas nuisible à la production nationale. Il est évident que, selon cette conception, le privilège politique des propriétaires fonciers ne résulte plus du fait qu'ils portent le poids principal de l'impôt. Tout ce que Proudhon considère comme mouvement du travail contre le capital n'est que le mouvement du travail en tant que capital, capital industriel, contre le capital qui ne se consomme pas en tant que capital, c'est-à-dire d'une façon industrielle. Ce mouvement suit sa voie victorieuse, la voie de la victoire du capital industriel. Ce n'est donc qu'en considérant le travail comme l'essence de la propriété privée que l'on parvient à saisir le mouvement économique en tant que tel, dans sa véritable nature.